Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Et nous y voilà, il est 7h12, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Un grand bonjour à vous, peut-être venez-vous d'arriver sur RMC. Et après le jardin, et avant de retrouver tout à l'heure notre rendez-vous forme santé avec Christian Ekia, j'accueille Christian Pessé. Bonjour monsieur Pessé.
Bonjour monsieur Sorel, comment c'est-il que ça va?
Comment ça va monsieur Pessé, qui possède un Mac quand même, hein, je tiens quand même à
me
rappeler.
Oui, je suis un inconditionnel.
Comment peut-on s'appeler Christian Pessé et être dans la concurrence?
Je ne vais pas possible. Tout de suite dans la guerre.
Non, c'est vrai.
Mais bon, depuis 1986, j'ai des Macs.
Vous avez des Macs depuis 1986
ouais. Enfin bon, je les ai changés un peu.
Ah oui.
Mais vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on rallume aujourd'hui un Mac de 1986.
Et il marche toujours.
Il marche toujours.
Ah oui.
Et avec les logiciels vivants d'époque, ce qui est un petit peu plus lent, quoi.
Ah oui, un petit peu plus lent, ça c'est clair. Christian, on est ensemble jusqu'à 8h pour la maison avec tout à l'heure votre coup de cœur. Vous nous parlerez d'un petit moteur solaire révolutionnaire qui vous a tapé dans l'œil.
Il m'a tapé dans l'œil celui-là. Bon, il est quand même un petit peu gros parce qu'il fait, je sais pas, 80 cm de diamètre. Ça ressemble à une petite soucoupe volante et surtout, ça fonctionne sans électronique, sans batterie et ça peut rendre des services fantastiques. Ça va en rendre en Afrique, mais même dans notre vie quotidienne. Je précise que pour l'instant, c'est un matériel professionnel, donc vous ne pourrez pas l'acquérir.
Bon, mais vous allez nous expliquer à quoi ça sert tout
exactement
à l'heure.
Exactement. Et comment ça marche.
On retrouvera aussi notre conseil d'expert dans une minute. Avec l'humidité dans la maison, comment la combattre, etc. Et puis, on évoquera aussi dans notre dossier de ce samedi le fait de pouvoir adapter son logement face à une situation de handicap. Alors, le handicap, ça peut être aussi tout simplement parce qu'on vieillit, qu'on va adapter sa maison au vieillissement.
On va dire la perte de mobilité.
Exactement.
Globalement. Et on va voir qu'il y a beaucoup de solutions. On attendait pas mal de la conférence du président de la République. Finalement, il n'y a pas eu grand-chose d'annoncé dans ce domaine, mais il y a eu beaucoup d'autres choses, notamment pour les enfants et les handicapés. Et c'est très bien.
Donc, tiens, vous avez des questions sur le fait d'adapter son logement face à une situation telle que Christian l'a évoqué. N'hésitez pas, 3216, l'appli RMC Direct Studio, aménager une douche, une salle de bain, peut-être aussi l'extérieur de la maison pour le rendre plus accessible. 3216, l'appli RMC Direct Studio, n'hésitez pas à nous appeler. Merci d'être là. Et on attaque tout de suite avec Hervé qui est là. Bonjour Hervé.
Bonjour François et Christian.
Bonjour Hervé.
Très bien.
Oui, très bien.
Bienvenue Hervé de Seine-et-Marne.
Tout à fait.
Et on vous écoute.
Je vous appelais, concernant les problèmes de carrelage et de fissures au niveau de façade. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les photos que vous avez envoyées.
Si, j'ai vu les photos. C'est très bien pour tout le monde. Là, envoyez-nous des photos quand vous pouvez. Ça me permet quand même d'affiner le diagnostic, comme dirait Christian Ricard.
Voilà, ouais.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive?
Et donc, au niveau façade, c'est une maison qui est construite en béton cellulaire, qui a même pas 10 ans encore, qui est sur sa 9e année. Oui. Et donc, au niveau des angles, donc il y a des fissures qui sont apparues donc au niveau de la maçonnerie. Mmh. Et donc, au niveau carrelage, intérieur, à certains endroits, pas partout, il y a une surface de 70 mètres carrés, là où c'est. Au niveau des photos, c'est difficile à cerner, mais quand on est sur place, on le voit que le carrelage est fissuré par en dessous. Ça n'a pas encore atteint le dessus, sauf sur deux carreaux, mais par en dessous, il y a des zones où on voit bien qu'il y a une démarcation où c'est fissuré par en dessous.
Attendez, comment donc, vous pouvez voir les fissures par en dessous? Je comprends pas.
C'est-à-dire avec le reflet. Avec le reflet de la lumière, on voit que le carrelage, il y a un souci à certains niveaux.
Ah oui, d'accord. Alors, j'ai vu effectivement en photo, les fissures carrelage apparaissent comme assez minimes. Le problème, c'est votre carrelage, il était collé ou il était scellé? Est-ce que vous le savez?
Alors, apparemment, de ce que je sais, il a été scellé sur la chape directement. C'est avec un plancher chauffant électrique.
Bon. S'il a été effectivement scellé, il entre encore dans la décennale. À condition que ça ne soit pas qu'esthétique. Alors, en plus, vous avez un plancher chauffant électrique. Bon, il serait hydraulique, ça serait un petit peu plus gênant parce qu'on ne pourrait pas enlever le carrelage. Là, on peut enlever le carrelage et le refaire. Donc, il faut une expertise là-dessus. On va vous dire que c'est esthétique, que ça n'entre pas dans la décennale, mais vous avez effectivement, j'ai vu là des fissures au niveau du chaînage de la maison, ce qu'on appelle le chaînage, c'est-à-dire ce qui ceinture, qui moi là me semble plus inquiétant. Alors vous êtes sur du béton cellulaire, c'est un matériau qui a d'immenses avantages, mais qui a aussi cet inconvénient de fissurer davantage. La question est-ce que vous avez un sol argileux? Vous pouvez peut-être le savoir. Où est-ce que vous avez des voisins qui ont le même phénomène?
Là, il y avait une étude qui avait été faite au niveau de l'achat de la maison, mais argileux, non, il me semble pas que ça soit le cas.
Parce que bon, sinon on serait dans un phénomène de gonflement en retrait des argiles, qui touche malheureusement beaucoup de maisons en France aujourd'hui. Du fait de l'évolution climatique, c'est-à-dire il pleut, les argiles se gonflent, ça rétreint, et donc clac, ça fait fondre, ça fait fissurer la maison. Dans votre cas, moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut que vous battiez davantage, parce que après, si c'est reconnu comme étant effectivement une fissuration qui peut entrer dans la décennale, c'est-à-dire si les fissures sont traversantes, à ce moment-là, vous pourrez peut-être faire valoir que les fissurations, micro-fissurations peut-être, du carrelage sont liés justement à ce défaut. Commencez par vous battre, n'allez pas commencer à vous battre pour le carrelage. 8 fois sur 10, les assurances dégagent en touche et on n'en finit pas. Et les 2 ans, vous allez les avoir dans le nez très rapidement. C'est-à-dire les 2 ans qui restent avant la fin de votre décennale. Donc, est-ce que vous aviez pris une assurance dommage ouvrage?
Ça, il y avait tout à l'époque. Dommage ouvrage, si vous
avez l'assurance dommage ouvrage, vous ne discutez avec personne d'autre que votre assurance. C'est-à-dire, vous adressez une lettre recommandée, vous faites des photos et vous demandez à votre assurance dommage ouvrage de la faire jouer compte tenu de l'impact dans le cadre de la décennale, etc. Tout le processus vous connaissez peut-être ne discutez jamais avec votre entrepreneur, avec le CMiste, le constructeur de maison individuelle si vous en aviez un. Il faut l'assurance dommage ouvrage. Faites-la jouer. Okay. Et puis revenez pour nous raconter, parce que moi, je suis attentif à cela. Le problème de la décennale et de la dommage ouvrage, c'est pas toujours simple. Je dis qu'il faut l'apprendre, mais c'est pas aussi facile ensuite de la faire jouer.
Oui, à mettre en œuvre. Ça, les assurances, c'est sûr.
Sans compter le prix aussi.
Et ne traînez pas. Et au besoin, à signer tout de suite au tribunal. Parce que ça gèle la durée de la décennale. Ça remet à ce moment-là.
Ah oui, mais d'accord.
Il faut pas se contenter des échanges de lettres recommandées qui n'ont pour autre but que de vous faire sortir de la décennale.
D'accord, ok. Mais à partir du moment où ça a été signalé dans la période de décennale, il n'y a pas de recours après, même comme ça?
Ah ben, comment ça, il n'y a pas de recours de la part de l'assurance?
Non, je veux dire, si je leur... par exemple, voilà, j'appelle l'assurance, je leur envoie un recommandé en disant, il y a un souci. Ouais. À partir du moment où j'ai signalé qu'il y a un souci,
il faut que vous assigniez. N'hésitez pas à signer le plus vite possible si ça ne bouge pas.
Et pourtant, si on le signale avant la fin de la décennale, c'est quand même qu'on a repéré quelque chose.
Oui, mais
si elle se termine.
Oui, mais il va falloir qu'on vous fasse une expertise, on va y avoir contre-expertise, tout ça. Donc, en assignant, là,
c'est c'est-à-dire que là, le temps, c'est vraiment notre ennemi, là.
Absolument.
Hein,
surtout à 2 ans de l'échéance.
Hervé, tenez-nous au courant.
D'accord, il n'y a pas de souci. C'est gentil à vous.
Merci à vous.
Bonne continuation. Ouais. Bon week-end. Merci bien.
Merci.
Au revoir.
Alors, mon cher Christian, on va maintenant évoquer l'humidité dans la maison.
Continuer.
C'est notre conseil de l'expert.
RMC, votre maison.
Le conseil béton.
Béton.
De Christian Pesset.
Alors attention Christian, l'humidité dans la maison, on va parler des remontées capillaires.
Eh oui, j'ai planté le décor la semaine dernière en évoquant les différentes sources, c'est le cas de le dire, d'humidité dans la maison. Là, on va parler de la principale, les remontées capillaires. Alors c'est un fléau que beaucoup d'entre vous subissent et souvent il est très difficile d'en venir à bout. Alors c'est quoi? C'est une humidification des murs qui vient du sol, donc c'est la principale cause d'humidité dans les maisons, je le disais. Ça remonte sur, en gros, généralement à un bon mètre, et puis ça dégrade l'intérieur des murs, ça fait cloquer les peintures, ça forme des moisissures en forme d'auréole si la maison n'est pas très bien ventilée, ça rend le plâtre friable, enfin bref, c'est assez une cata. Alors, l'origine de ce qu'on appelle les désordres en matière professionnelle, ça peut avoir plusieurs causes. C'est quoi? C'est d'abord la porosité du flanc extérieur des fondations. Les fondations, ça devient poreux parce qu'il n'y a pas eu d'étanchéité de fait, parce que malheureusement, ce n'est pas obligatoire.
Donc, ça va traverser les fondations.
Alors, ça va déjà les humidifier en surface. Après, c'est la présence d'eau, effectivement, sous les murs et autour des fondations.
D'accord.
Et puis, c'est souvent l'absence, dans les maisons qui ont, on va dire, plus de 20 ans, c'est l'absence de ce qu'on appelle une bande d'étanchéité dans les murs, c'est la bande d'arase qui, à une dizaine de centimètres au-dessus de la terre, constitue un barrage étanche. Et malheureusement, quand il n'y en a pas, eh bien, ce barrage, il n'existe pas. Alors, quand toutes ces conditions sont réunies, eh bien, la maçonnerie des murs peut se comporter comment? Eh bien, comme un buvard. C'est-à-dire qu'elle est sèche, en plus, vous chauffez à l'intérieur de la maison, et à ce moment-là, on a un phénomène de pompage de l'eau par le matériau de construction, par la base des murs. L'eau imprègne les fondations, elle imprègne ensuite le début des murs, et puis il y a une espèce de mouvement ascensionnel de l'humidité qui, par capillarité, c'est-à-dire en passant dans les interstices qu'il peut y avoir dans la construction, ou du fait même du matériau de construction, par exemple de la pierre calcaire, eh bien, ça s'humidifie. Alors, ça se produit aussi lorsqu'on a une terrasse inclinée et du mauvais côté et où l'eau arrive donc est dirigée vers le pied des murs au lieu d'être évacuée. Alors quelles sont les solutions? Elles sont pas faciles, les solutions. La première des choses, je le dis toujours, c'est la logique, c'est de dire d'où vient l'eau. Empêcher l'eau d'arriver vers la maison quand on le peut, parce que c'est pas toujours possible. Mais si vous avez une maison qui est isolée, qui a du terrain autour, très souvent, il suffit de drainer le terrain, de faire drainer le terrain pour écarter l'eau de la maison et ça suffit pour résoudre le problème. Alors, on peut aussi déchausser, ce qu'on appelle déchausser, c'est-à-dire enlever la terre au pied des fondations et mettre un enduit d'étanchéité, un enduit hydrofuge qui va là aussi empêcher que les fondations soient mouillées. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre solution? Bien, il y a l'injection de résine. On vous vend ça à des prix faramineux aujourd'hui. Ça a pour vocation, normalement, de rendre, on va dire, la maçonnerie étanche. Ça marche, mais pas dans toutes les pierres. Pas avec tous les matériaux de construction. Je parlais tout à l'heure d'une pierre calcaire. Les résines vont pouvoir migrer dans le calcaire et à partir de ce moment-là, ça va marcher. Vous avez du granit, c'est beaucoup plus difficile parce que la maçonnerie est bloquée. Alors il y a toutes les méthodes aussi qui vous sont proposées, magnétiques, électromagnétiques et autres. C'est censé inverser le flux d'eau dans la maçonnerie en inversant la polarité électrique des fondations. Alors je sais que ça marche notamment dans des gros ouvrages, dans les travaux publics, mais vous avez là aujourd'hui toutes les portes ouvertes aux arnaques, parce que on vous vend des trucs qui ne servent à rien, souvent à des prix assez élevés, mais comme c'est moins cher malgré tout que les résines, eh bien on a tendance à les accepter. Alors il y en a qui marchent, il faut surtout se renseigner, prendre des informations sur des chantiers et pas seulement sur ce qu'on vous dit. Il faut aller voir des gens qui ont effectivement fait poser ce type de matériel et chez qui ça a marché. Voilà, ce sont les solutions, mais c'est galère. Les remontées capillaires, c'est galère. Les produits hydrofuges qu'on met à l'intérieur, tout ça, ça sert à rien. Parce que de toute façon, l'eau, elle est déjà dans la maison, si j'ose dire.
7h25, on revient dans un instant sur RMC. Christian, tiens, je vous offrirai encore une perceuse. On l'offrait tout à l'heure dans le jardin, mais il y en a encore une pour vous dans la maison. Je vais tout vous expliquer dans un instant. Et puis, on évoquera donc le fait de pouvoir adapter son logement à une situation de handicap. C'est vrai, un accident. Et puis, tout simplement, le fait de vieillir. Hein, quand on vieillit, il faut adapter son logement. On en parle avec notre invité. Vos questions sur ce sujet aussi, dès maintenant. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite après la météo.
RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
7h30, c'est le week-end des experts et c'est la maison. Dans un instant, nous allons évoquer bien justement le fait de pouvoir adapter son logement face à des situations de handicap ou tout simplement parce qu'on vieillit, qu'il faut adapter sa salle de bain ou son entrée. On en parle dans une minute, mais auparavant, je voulais vous rappeler que je vous offre un très joli cadeau ce matin. Je vous offre une perceuse visseuse
super,
Bosch.
Super.
C'est un joli cadeau, ça.
Ouais,
hein,
très bien.
Franchement, donc qui peut servir pour plein d'usages à la maison. En plus, comme elle est sans fil, c'est bien pratique. Hein, vous la rechargez et puis après, vous êtes tranquille. Pour emporter donc cette perceuse visseuse, c'est simple. Vous jouez avec nous, vous nous envoyez dès maintenant le mot maison. Maison par SMS au 732-16. Maison par SMS au 732-16 et vous participez automatiquement au tirage au sort. Bonne chance.
Votre maison sur RMC avec Mano Mano, la référence européenne du bricolage et du jardinage en ligne.
Christian,
oui.
Donc on va maintenant adapter notre logement.
On va adapter notre logement avec Patrick Lefeu, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Patrick, vous êtes secrétaire général de Handibat, Silverbat. Ce sont des structures qui, on va dire, labellisent les entreprises spécialisées dans l'adaptation du logement.
Tout à fait. Face à l'ampleur des travaux à réaliser, nous avons décidé de professionnaliser un réseau d'artisans de proximité pour intervenir au domicile des particuliers.
D'accord, vous travaillez avec la CAPEB, hein, c'est ça ?
Complètement, c'est une marque de la CAPEB.
Voilà, alors la CAPEB, c'est la Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment.
Tout à fait.
J'ai regardé un petit peu parce que je suis curieux. 56 000 entreprises, hein, c'est ça ?
Complètement.
Ouais.
56 000 entreprises affiliées à la Confédération.
Voilà. Donc, alors, cette semaine, il y a eu la conférence nationale sur le handicap par le président de la République. Donc, j'ai programmé ce sujet. Pour tout vous dire, je pensais qu'il allait y avoir des annonces sur le bâtiment. Il n'y a pas grand-chose. Il y a simplement que les immeubles de 3 étages qui vont être construits à partir de maintenant auront forcément l'ascenseur. Mais donc, ça, c'est pour le logement
alors
collectif.
Alors que ce n'était pas obligatoire avant.
Non, c'était 4 étages.
C'était 4 étages,
c'était
d'accord.
4 étages. Donc, aujourd'hui, maintenant, c'est 3. Et,
finalement, qu'est-ce que ça change ? Parce que si on est en situation de handicap, qu'on soit au 3e ou au 4e, on a toujours un problème. Hein.
C'est sûr, c'est sûr. Et puis, il y a eu aussi, donc, j'en avais parlé lorsque c'est sorti, le fait de mettre des receveurs de douche extra plat ou de douche à l'italienne, là encore, dans toutes les constructions, sauf pour soi-même. Alors ça, je trouve ça assez stupéfiant. Ça veut dire que si on fait construire soi-même sa maison, il n'y en a pas besoin, c'est ça ? Enfin, on n'est pas obligé ?
Alors, pour soi-même, on fait ce que l'on veut.
Ouais.
Pour autant qu'il faille que ça soit adapté. Et puis, de toute façon, souvent, il faudra le refaire. Donc, autant bien le faire d'entrée.
Autant bien le faire dès le départ. Alors, deux cas, on va dire, de problèmes dans la maison. Si on est handicapé, d'une part, et puis à tous âges. Et puis, surtout, l'adaptation du logement au vieillissement. C'est-à-dire que là, ça va toucher tout le monde. Heureusement, tout le monde n'est pas handicapé, mais malheureusement, tout le monde va vieillir et être dans une situation où la maison peut être semée de pièges.
D'autant qu'on reste de plus en plus longtemps à la maison, et c'est bien.
Voilà,
d'ailleurs.
Mais oui, c'est l'avenir. Hein. Moi, j'ai toujours dit que l'avenir, c'était la maison de retraite à la maison.
Hein, évidemment.
Dans toute la mesure du possible. Bon, il y a parfois des problèmes de sociabilisation. Il ne faut pas non plus perdre les contacts en restant chez soi isolé. Mais d'un autre côté, c'est quand même l'idéal. Beaucoup de décès hein, par an. Vous disiez hors antenne qu'il y a combien de décès par chute, par exemple.
Les chiffres sont énormes. En France, nous comptabilisons plus de 9000 décès domestiques suite à des chutes à domicile. C'est 3 fois plus que le nombre d'accidents routiers et de décès sur la route. 450 000 blessures occasionnées par des chutes à domicile et près de 110 000 séjours d'hospitalisation.
Le coût pour la sécurité sociale doit être absolument énorme.
Pharaonique.
Je ne sais pas si ça a été calculé.
Et les chutes, on a des infos sur ces chutes-là. C'est quoi ? C'est les chutes d'escalier ? C'est des gens qui glissent ? Quelles sont les chutes les plus... Allez-y.
Les chutes sont principalement liées au défaut d'adaptation du logement. Les gens continuent de vivre dans leur habitat. Il faut savoir que 75% des personnes de plus de 65 ans sont propriétaires de leur logement. Oui. Leur souhait pour 90% d'entre elles, c'est de vieillir à domicile, pour autant que le logement continue d'être adapté et qu'on y apporte des solutions quotidiennes.
Alors justement, c'est quoi les grands principes, on va dire ?
Alors les grands principes, d'une part, c'est de s'entourer.
Oui.
Quand on vieillit, on n'a pas forcément conscience de ces diminutions physiques. Il faut savoir anticiper les choses et il est difficile d'avoir un recul sur son état de santé parfois.
Alors les aménagements prioritaires, c'est quoi ?
Alors naturellement, on pense à la pièce d'eau.
Oui, on pense
à la salle de bain.
Suppression de la baignoire.
On y pense parce que c'est la pièce la plus humide sur laquelle il y a un risque de.
Oui,
est-ce
que c'est dedans qu'on tombe le plus ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, par exemple, des escaliers mal foutus, éclairés ?
Des escaliers sur lesquels les mains courantes ne sont pas à la bonne hauteur, des escaliers mal éclairés, des gens qui se lèvent la nuit pour aller un peu plus régulièrement aux toilettes quand le grand âge arrive, et finalement, de peur d'éblouir le compagnon,
on ne va pas allumer
la lumière et on va chuter dans les escaliers. Donc il y a des solutions toutes simples à mettre en œuvre.
Mais déjà, des escaliers, il ne faut plus d'escaliers, on est d'accord. Quand on a des escaliers, on complexifie en fait le quotidien, non ?
Vous avez raison. Aujourd'hui, il y a plus de 800 000 personnes en France qui déclarent ne plus accéder à toutes leurs pièces de vie.
Ouais.
Ça veut dire qu'il y a des maisons individuelles dans lesquelles les personnes n'accèdent plus à l'étage. Donc l'escalier, c'était une grande tendance, la maison avec un niveau.
C'est aussi
ça reste une valeur patrimoniale, ça reste un logement que l'on souhaite occuper. Donc il faut proposer des solutions techniques pour continuer d'y accéder.
Et le paradoxe dans tout ça, c'est que avoir des escaliers, c'est plutôt bien, dans le sens où ça fait faire de l'exercice, ça permet à des personnes âgées malgré tout de faire des efforts et donc d'entretenir les muscles, etc.
Mais
de l'autre côté, ben voilà, c'est une source d'accident.
Oui, mais c'est aussi une question de
paradoxe.
C'est aussi une question de coût du foncier, c'est-à-dire vous pouvez pas avoir que des maisons qui seraient de plein pied, parce que là, on se plaint déjà de cette difficulté.
De l'étalement urbain et
c'est pas possible.
On n'a peut-être pas besoin d'une maison très très grande aussi quand on vieillit.
Alors ce que je propose toujours, c'est de dire il faut que le rez-de-chaussée soit aménageable, c'est-à-dire il faut penser à une salle de bain au rez-de-chaussée, il faut penser à des dégagements suffisamment larges au rez-de-chaussée, il faut penser à des WC au rez-de-chaussée et à l'étage. Alors tout ça coûte cher, mais c'est une évidence, c'est une façon de pouvoir jusque 70 ans, on peut peut-être avoir sa chambre à l'étage et puis ensuite avoir un rez-de-chaussée très facilement aménageable.
Nous avons Marie Chantal, Christian au 32-16. Oui. Bonjour Marie Chantal.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors,
Marie Chantal.
J'ai 64 ans. Je suis handicapée depuis 12 ans suite à un AVC.
Oui.
Je vis en appartement parce que la maison où j'étais n'était pas adaptée. Et j'ai demandé à l'agence de poser une douche. On m'a opposé un refus.
Parce que vous êtes locataire.
Sans discuter. Vous
êtes locataire.
Oui.
Donc, je pense qu'effectivement, il n'y a aucune obligation pour votre propriétaire d'installer une douche. Monsieur Lefeu, qu'est-ce que vous
aujourd'hui, vous avez une baignoire, Marie-Chantal, c'est ça ?
Oui.
Eh oui.
Il y a 40 ans.
Et vous avez
du bâtiment.
Vous avez échangé avec le propriétaire, non, uniquement avec l'agence ?
Juste avec l'agence.
D'accord. Alors, faut voir le propriétaire là.
Oui.
Bah oui, ça serait quand même pratique. Hein.
Et donc,
d'autant que si le propriétaire veut vous garder le plus longtemps possible dans le logement que vous louez, il a tout intérêt à
investir
à mettre en
œuvre
des solutions.
Oui,
et
sauf s'il veut
me
mettre dehors dans quelques années.
Ah oui, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Mais... Alors là, il peut effectivement multiplier les pièges, mais ça n'est certainement pas le cas. Donc on attaque tout de suite le problème des aides. Le propriétaire bailleur, est-ce qu'il peut avoir des aides dans ce cas-là ?
Les aides sont plutôt réservées aux propriétaires occupants.
Oui.
Le propriétaire bailleur, il faut qu'il le voit comme un investissement sur l'avenir, puisque son bien va prendre de la valeur. Et puis, transformer une baignoire en douche, ce n'est pas faire une salle de bain type hôpital. Il va embellir son bien, il va y mettre des solutions techniques qui ne sont pas si excessives que cela aujourd'hui.
Bien sûr.
Ça, voilà, ça coûte combien, Christian? Alors, bon, c'est compliqué hein, de le dire à la louche, mais enlever une baignoire et mettre une douche à la place, c'est des dépenses de combien à peu près?
10 000 euros.
Oui, c'est ça.
10 000 euros, vous refaites la salle de bain.
Alors, pour 10 000 euros, vous refaites la salle de bain, vous refaites les reprises de carrelage, vous refaites les peintures.
Oui.
C'est
pas vrai.
Pourquoi?
J'ai fait faire un devis et on me demandait 6 000 euros juste pour changer la baignoire.
C'est ça, c'est vrai.
Mais voilà,
c'est ça. C'est ce que je dis. Enfin, d'ailleurs,
vous disiez 10 000 pour refaire toute la salle de bain.
10 000 pour refaire toute la salle de bain, changer de lavabo, etc. Et puis 5 000 pour simplement, entre 3, moi je dirais même entre 3 000 et 5 000, on peut faire remplacer aujourd'hui une baignoire, on peut remplacer la baignoire et mettre à la place, donc une douche confortable pour effectivement, moi je dirais entre 3 et 5 000.
Mais c'est vrai que, en fait, finalement, les locataires ne sont pas favorisés dans cette histoire-là. Cette pauvre Marie-Chantal, bon voilà, elle se retrouve dans un appartement qu'elle loue. Il n'y a pas d'aide, en fait, pour que le propriétaire puisse modifier cet appartement. C'est ça qui est dommage.
Il y a même les 5 000 euros, ils ne peuvent pas être obtenus?
Alors, aujourd'hui, vous avez un dispositif qui vient d'être déployé. Action Logement va financer pour 1 milliard d'euros de travaux.
C'est pas mal, ça.
Ce qui est considérable.
Pour une salle de bain,
pour remplacer, pour Marie-Chantal, c'est bien, un milliard. Pour remplacer et aménager 200 000 salles de bain en France.
Oui.
Donc, mais on alors, est parti sur une enveloppe moyenne de 5 000 euros par dossier. Tout cela, c'est sous condition de ressources. Il faut vérifier, se connecter sur le site Action Logement. Je n'ai pas tous les critères en tête. C'est sous condition de ressources avec des entreprises de qualifiées et compétentes, notamment celles qui sont en DIBAT. Il me semble que c'est éligible aux
locataires.
Aux locataires. Il faudrait vérifier sur le site d'Action Logement. C'est un portail accès simple. Connectez-vous ou rentrez en contact avec les délégations territoriales.
Ah, ça aujourd'hui, peut être une
200 000,
solution.
Et puis, 200 000 salles de bain vont pouvoir être financées pour les personnes.
Et peut-être que Marie-Chantal est éligible en plus.
Alors c'est réservé sous condition d'âge et de revenus, donc il faut vérifier. Oui.
D'accord.
Action, vous avez dit
Action Logement.
Action Logement, hein, le site Action Logement.
Voilà.
On revient dans un instant, Christian.
Oui, on revient dans un instant.
7h42, on va poursuivre bien sûr sur ce sujet. Et si tout comme Marie-Chantal, vous voulez poser vos questions sur le fait d'adapter son logement face à une situation de handicap, ou tout simplement parce qu'on vieillit. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On revient dans une minute, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 8h. Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
Le retour du week-end des experts, la maison. Comment adapter son logement face à une situation de handicap? Avec Christian Pessé, bien évidemment, et Patrick Lefeu, secrétaire général de Handibat, qui est avec nous, Christian.
Oui, tout à fait. Alors, on a parlé de la salle de bain, qui est a priori le lieu de tous les dangers, mais il y en a un autre, c'est la cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer dans la cuisine pour éviter justement les risques?
Et oui, Christian, la cuisine, c'est l'endroit où traditionnellement on aime passer du temps, surtout quand on en a et quand on aime recevoir. Ceci étant, les cuisines sont souvent encombrées. Donc il faut, avant d'envisager de repenser sa cuisine, il faut évaluer les besoins, se poser les bonnes questions et savoir ce dont on a besoin au quotidien dans ces gestes.
Donc, l'îlot central, par exemple, c'est certainement pas la bonne idée.
L'îlot central, quand on veut circuler dans une cuisine qui parfois est étroite, c'est pas la solution la plus adaptée. Les placards hauts sont souvent difficilement accessibles. C'est l'endroit où il va falloir privilégier des choses dont on ne se sert quasiment jamais ou plus.
Ouais, là, les crédences sont souvent trop profondes.
Tout à fait. Les hauteurs de plan de travail sont parfois inadaptées. Les éviers sont parfois profonds.
Oui.
Donc, quand on souffre de différentes pathologies, il faut aussi se poser les bonnes questions de l'usage de la cuisine et de ce qu'on va en faire.
Les équipements, par exemple le four, moi j'ai vu la porte rétractable, c'est presque indispensable si on ne peut pas effectivement s'approcher sur ses deux pieds.
Si une fois que le four est ouvert, effectivement, et que pour accéder au fond du four et aller chercher son plat, ça devient une difficulté, il faut penser à d'autres types d'équipements électroménagers. Il faut penser à les demander aussi aux fournisseurs d'électroménagers, parce qu'ils sont peu courants, mais ils existent.
Il y a même des plans qui sont règles, qui sont motorisés.
Vous avez des cuisines aujourd'hui qui sont sur des pieds avec des systèmes motorisés qui montent et qui descendent.
Des petits ascenseurs, finalement.
Alors ça, c'est formidable, parce que dans un couple, vous pouvez avoir une personne de grande taille et une personne de petite taille.
Bien sûr.
Et quand on cuisine, ben finalement, on a souvent mal au dos parce que le plan de travail est inadapté, pas à la même hauteur. Vous avez aussi des éléments de cuisine escamotables qui descendent
Ah oui.
Et arrive à la hauteur de la personne pour qu'elle puisse prendre légèrement.
Ça coûte cher,
c'est relativement onéreux encore.
Évidemment. Alors là, je vais faire plaisir à François. Il y a aussi tous les objets connectés hein, qui deviennent de plus en plus utiles justement pour faciliter la vie et les déambulations dans la maison.
Ah, ils deviennent faciles d'appropriation. Hein. C'est-à-dire que la mise en œuvre est assez évidente. Les professionnels du bâtiment, électriciens, maîtrisent de mieux en mieux ces solutions techniques. Le volet roulant, finalement, il est rentré dans les mœurs.
Bien sûr.
Et d'autres solutions connectées arriveront prochainement. Il ne faut pas que ce soit des systèmes intrusifs dans la vie de la personne.
Comment trouver un bon artisan? Parce que c'est le problème. Alors vous allez dire Handibat, Silverbat, mais
nous en avons formé un bon nombre. Il y en a plus de 2000 qui couvrent le territoire. Le point de vigilance premier, c'est de s'assurer qu'on fait appel à un artisan de proximité qui est dans son territoire.
Très bien, merci. Patrick.
Et pour les aides, Action Logement.
Action Logement, alors vous avez d'autres dispositifs d'aide, les crédits d'impôt qui existent, qui sont peu mobilisés.
La TVA à 5%.
La TVA à taux réduit. Vous avez des opérateurs Habitat qui couvrent le territoire national, tels que le réseau Solia, qui sont en mesure d'accompagner individuellement les personnes.
D'accord. Solia, c'est S-O-L-I-A.
L-I-A. Solidaire pour l'Habitat. Réseau associatif.
Merci beaucoup, Patrick. Christian, on accueille Christiane maintenant. Oui. Bonjour, Christiane.
Oui, bonjour.
Bonjour, Christiane.
Bienvenue. Bonjour, Christian. Quel beau prénom, n'est-ce pas?
Merci.
Magnifique.
Ça me fait pour nous entendre.
Tout à fait. D'ailleurs, ça fait 18 ans que j'écoute RMC tous les week-ends et que je ne ferme plus l'œil le matin.
Ouais. Génial. Ouais, oui, 18 ans.
C'est une petite déclaration d'amour que vous faites à Christian, là. Hein,
Christiane. Tout à fait. Et je remercie aussi ma copine Tina qui m'a conseillé d'écouter RMC à ce moment-là. Et voilà, je ne vous lâche plus depuis.
Eh bien, c'est parfait.
Très bien.
Alors, quelle est votre question? En quoi on peut vous aider?
C'était l'autre jour, vous aviez parlé des chauffages à pellet. Oui. J'ai une maison en Auvergne depuis 2003. Et justement, on m'avait mis une cuve à fioul dehors, à un mètre à peu près du mur du garage.
Oui.
Une cuve enterrée, soi-disant la Rolls, c'est vrai parce que j'ai payé 2 700 euros, c'était très cher. Et donc, elle est carrée en béton. Et je voulais savoir si on pouvait... éventuellement, là, elle n'a jamais servi, elle est branchée sur rien, elle est juste posée. Et donc, je voulais savoir si en perçant le mur du garage, qui est un petit peu plus... Enfin, qui est assez, un peu enterré, si on pouvait récupérer cette cuve, percer un trou et faire une entrée pour pouvoir se servir de cette cuve en tant que... réservoir à pellets.
Oui, alors a priori, je ne pense pas. Je ne pense pas. Simplement, faudrait voir s'il pourrait exister un système de vis sans fin, mais c'est certainement très compliqué. En tout état de cause, ça peut vous servir si vous pouvez y accéder davantage, tout simplement à stocker vos sacs. Mais en termes de réservoir d'alimentation automatique d'un système de chauffage à granulés ou à pellets, comme on dit, a priori, je ne pense pas.
Merci beaucoup. Merci Christiane. Mon cher Christian, on va terminer avec votre coup de cœur.
Oui.
Alors qu'est-ce que vous avez détecté pour nous?
Alors je vous ai trouvé un petit moteur solaire qui fonctionne sans électronique et sans batterie.
Moteur solaire.
Voilà, ça permet d'entraîner. Ça se présente comme une soucoupe volante, petite soucoupe volante.
Ouais.
Et donc vous avez là-dessus des panneaux, des micro-panneaux photovoltaïques. Et ça permet d'entraîner directement un moteur. C'est très simple. Ça peut entraîner des systèmes mécaniques de petites puissance, comme des pompes, très important dans les pays du Sud et de l'Afrique, des brumisateurs, des turbines de ventilation, des dispositifs de brassage pour qu'il n'y ait pas d'eutrophisation des bassins, par exemple. L'avantage, c'est que ça convertit directement l'énergie solaire en énergie mécanique de façon simple, sûre et peu onéreuse.
Alors, donc, il n'y a pas de batterie. Ça ne va pas stocker.
La nuit, ça ne marchera pas. Hein. Mais donc, ce système vraiment a été primé d'ailleurs dans un festival de start-up, si j'ose dire, et ça peut permettre aussi de, par exemple, en ville aujourd'hui, d'alimenter la pompe d'un bassin, d'alimenter l'irrigation de façades végétalisées. Tout ça, c'est en utilisant directement l'énergie solaire, donc complètement gratuite. Alors Je précise, ce moteur solaire révolutionnaire est une invention française. C'est celle d'Alain Coty, qui était ingénieur électrotechnicien issu de l'aérospatiale. C'est produit en Bourgogne, dans les environs d'Auxerre, sous la marque Saura, S-A-U-R-A. Attention, ça n'est pas aujourd'hui commercialisé pour le grand public. C'est un produit professionnel, mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'en parler. Je suis sûr que ça a un très bel avenir. Et puis, pour une fois qu'on n'a pas de pétrole, mais qu'on a des idées, ça vaut le coup quand même de le souligner. Un grand coup de chapeau à la marque Saura.
Imaginez un petit peu ce qu'on peut imaginer pour le futur avec les piscines, par exemple.
Génial.
Quand on aura assez de puissance pour filtrer les piscines, l'eau des piscines, etc., grâce
mais
à l'énergie
mais pour
solaire.
Entraîner donc un
ça existe peut-être déjà, d'ailleurs.
Ça n'est pas encore appliqué, mais ça le sera bien sans sûr. Aucun doute d'ici quelques années. Je pense qu'on a là, on tient là une très belle innovation. Et puis aussi, évidemment, dans les pays du Sud, c'est-à-dire l'Afrique,
ah, bien sûr.
Pour alimenter les pompes, notamment les micro-pompes, les petites pompes, etc. C'est formidable.
Je précise que Christian Pessé est également d'origine française. Il y a
tout à fait. Garantie.
C'est une start-up. Vive la Bourgogne.
Et comme le Charolais.
Je salue Vincent Pic de Bourgogne, le Morvandou Vincent Pic.
Bien sûr.
Voilà.
Christian, à la semaine prochaine. Et un Christian peut en cacher un autre. Monsieur Riquia, bonjour.
Oui, nous allons parler du virus Covid-19 de Chine.
Oh là là, ce
1484 morts, oui. 99% en Chine.
On fera
un virus qui résiste sur une table pendant 14 jours. On en parlera.
Voilà, on fera le point justement sur son évolution. Et puis surtout, vous allez nous donner quelques conseils pour se préparer pour le printemps et l'été, pour qu'on soit beau et peut-être un peu plus mince. Vos questions à Christian Riquia dans un instant au 32-16 ou via l'appli RMC Direct Studio. On revient après la météo et les infos. À tout de suite.